Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir de Radio Kapi dont voici les titres. Sombre découverte à Kasumbalesa. Une dizaine de corps a été découverte hier dans un buisson. Certains ont pu être identifiés comme des motocyclistes, mais certaines inconnues demeurent. Une situation qui surprend, mais les autorités s'organisent pour y répondre. Plus de 100 cas de choléra, dont 10 décès, ont été rapportés depuis le mois de juin dernier à ce jour dans le territoire de Ngandangika, province de l'Omami. 3 cas ont été notifiés dans la zone de santé de Kalambai. La négligence des règles d'hygiène en est la cause, selon les experts, et ils invitent désormais la population à s'y conformer. Des gens qui tuent leurs propres membres de famille, il y en a de plus en plus, notamment à Beni. Une dizaine de cas a été notifiée en 6 mois. Un psychologue est notre invité dans ce journal pour tenter de nous expliquer le pourquoi du comment de ce phénomène. Bonsoir une fois encore. Découverte surprenante à Kasumbalesa. Une dizaine de corps a été découverte hier dans un buisson. Certains ont pu être identifiés comme des motocyclistes, mais certaines inconnues demeurent. Une situation qui surprend, mais les autorités s'organisent pour y répondre. Un élément de Jean Gandou, rendu ici par Alain Irung.
C'est un motocycliste de Kasumbalesa qui a alerté la police après cette découverte choquante. Selon son témoignage, peu avant midi, deux hommes se sont présentés comme des clients et lui ont demandé de les transporter à environ 10 km de la frontière sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa. Arrivés dans une bourse où se trouvent des constructions inachevées, ils l'ont agressé et tenté de l'étrangler avec une corde. La victime raconte que 4 autres individus sont sortis de la brousse pour le tabasser. Pensant l'avoir tué, ses agresseurs ont pris la fuite avec sa moto. Après plusieurs heures, il a réussi à se libérer et en reprenant ses esprits, a découvert plusieurs corps éparpillés dans la zone. Pris de panique, il a alerté la police et ses collègues motocyclistes. Les forces de l'ordre, accompagnées du maire de Kasumbalesa, se sont rendues sur place pour constater les faits. Certains corps ont été identifiés grâce aux pièces d'identité retrouvées sur eux. La majorité serrée des motocyclistes est bien connue dans la ville. Le maire André Kapampa appelle les motocyclistes au calme et à la vigilance, tandis que les services compétents poursuivent leurs enquêtes pour retrouver les auteurs de ces tueries.
Fermeture du trafic sur le lac Tanganyika entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika et fermeture également de 2 aérodromes des territoires de Manono et de Nyunzu. C'est parmi les 13 mesures fortes adoptées par le gouvernement provincial du Tanganyika, cela pour empêcher toute infiltration du M23, des mesures prises au cours du Conseil provincial de sécurité extraordinaire tenu en début de cette semaine. On écoute le porte-parole du gouvernement provincial du Tanganyika qui évoque ces mesures, Raphaël Pungwe, dans cet extrait de Paulin Munanga.
Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyuz, tous les deux appartenant à la société MMR. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22h. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22h. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province.
Et puis, les déplacés du Nord Kivu installés au camp marin dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika, ont reçu du gouvernement une assistance en vivres et en matériel de vie quotidienne. Ces bénéficiaires peuvent être estimés à environ 3 000 personnes. Blaise Ndongala.
Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a mis à profit son séjour à Kalemie pour assister les personnes ayant fui les récents combats entre les FARDC et les rebelles de la FCM-23 dans le Nord Kivu. Cette assistance sociale comprend les sacs de semoule, des riz, de la viande de bœuf, des haricots, du sucre, des cartons de boîtes de conserve, de l'huile végétale, des pagnes pour les femmes, des bouteilles de jus, des bâches, ainsi que des cartons de savon et détergents. Guy Kabombo Mwadiavita a posé ses gestes de solidarité quelques jours seulement après s'être entretenu avec des blessés de guerre abordant leur situation salariale et leur prise en charge médicale à l'hôpital militaire de référence de Kalemie. Par ailleurs, tous les enfants en âge de scolarité présents sur le site des déplacés du camp marin ont été identifiés et inscrits dans les écoles environnantes. Le gouvernement congolais envisage ainsi d'autres mesures sociales durables en faveur des déplacés de cette partie du pays, notamment la construction des bâtiments modernes afin d'améliorer les conditions d'accueil des familles concernées. Avant Kalemie, le vice-premier ministre de la Défense nationale avait séjourné à Kisangani où il avait galvanisé les troupes militaires en cette période où le pays fait face à l'agression dans sa partie orientale.
En plus bref, le procureur général près la Cour de cassation met en garde les auteurs, co-auteurs et complices de la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux au sujet de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel publié hier à Kinshasa, Firmin Vondé dit constater ces derniers temps un regain de propagation de faux bruits liés à ce conflit. Selon lui, ces fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux et dans certains médias sont de nature à démoraliser les forces loyalistes engagées au front pour la défense de la souveraineté nationale. En conséquence, le procureur général instruit les officiers de police judiciaire et du ministère public à rechercher activement les auteurs de ces actes afin qu'ils répondent de leurs faits devant la justice. Le communiqué précise que les dossiers qui seront ouverts seront traités avec la plus grande célérité et que la procédure de flagrance sera privilégiée. Plus de 100 cas de choléra, dont 10 décès, ont été rapportés depuis le mois de juin dernier à ce jour dans le territoire de Ngandangika, province de Lomami. 3 cas ont été notifiés dans la zone de santé de Kalambay la semaine dernière. Le médecin chef de zone de santé de Kalambay, Dr Claude Ntamboa, lit cette situation au non-respect des règles d'hygiène. Il demande donc aux autorités locales de faire de la sensibilisation leur cheval de bataille pour résoudre cette situation. Docteur Claude Ntamboa intervient au micro d'Esther Dalafine.
La zone traverse cette situation depuis le mois de juin passé. À ce jour, nous comptons une centaine de cas avec 10 décès. Ce que nous demandons à la population, c'est de veiller à l'hygiène des mains, de l'eau, l'hygiène alimentaire. Concernant les repas, il faut manger chaud, bien conserver les aliments. En rapport avec l'eau, l'eau peut être traitée de deux manières, soit par cuisson, soit par les traitements médicamentés en utilisant les produits aquatables. Rapport à l'hygiène des mains, nous conseillons le lavage régulier des mains au savon ou à la cendre. Chaque fois, pour les mamans qu'on a échangé les couches de l'enfant, après avoir été aux toilettes, on doit se laver les mains. Quand on salue les gens, avant de manger, on doit laver les mains. Avant de servir à manger, on doit laver les mains. Avant de préparer, donc, que les autorités puissent nous aider aussi dans la sensibilisation et même en obligeant le ménage à disposer des latrines. Quand on défèque en brousse, tous ces déchets, quand il y a la pluie, sont drainés vers les rivières. Et après la pluie, on court vers les mêmes rivières pour aller puiser de l'eau. Et maintenant, l'eau que nous allons prendre est contaminée par nos propres matières fécales que nous avons laissées en brousse.
Encore une victime du gaz toxique communément appelé Mazuku dans la province du Nord Kivu et il s'agit d'un agent d'une société de gardiennage affecté à la surveillance d'une concession privée. Il est mort asphyxié hier mardi au quartier Lac Vert à l'ouest de la ville de Goma. Ronelly Timbonera.
Le jeune homme tentait de récupérer la dépouille d'une poule tombée dans une fosse près de son poste de travail à Nyabiounou. Il n'en est jamais remonté car il est mort asphyxié par ses gaz, explique le chef du quartier. Ce responsable rappelle qu'il s'agit d'un nouvel incident dans une série déjà longue. Plusieurs dizaines de personnes ont en fait perdu la vie dans des circonstances similaires. En février 2023, par exemple, l'ancien coordinateur provincial de la protection civile du Nord Kivu avait lui aussi succombé au Mazuku alors qu'il tentait de sortir les corps jardin déplacé dans une grotte à Boulengo. C'est pourquoi d'ailleurs, Dedes Mitima met en garde les habitants contre la dangerosité des zones contaminées par ces gaz mortels, dont la plupart ne sont pas signalées. Notons que les mazoukous et les noms donnés à ces phénomènes naturels correspondant à une concentration du gaz carbonique créant à la surface du sol une poche d'air appauvrie en oxygène dans une zone donnée.
Lutte contre le paludisme. Plus de 68 000 ménages vont bénéficier des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui de ses partenaires a procédé à la distribution hier mardi. L'opération a été lancée à la tribune centrale de Kindu par le vice-gouverneur, en même temps gouverneur par intérim. La province du Maniema, elle seule, a reçu plus de 2 millions de moustiquaires à distribuer aux ménages de 18 zones de santé de la province. Florence Kiza.
Étant dans une équipe de deux relais communautaires, ces derniers passent dans chaque ménage et remettent de moustiquaires selon la taille du ménage. Marie Bahati, mère de ménage, la première à être servie, s'exprime en ces termes.
Je viens de remercier seulement les relais communautaires parce qu'ils viennent de me donner 5 moustiquaires. Les moustiquaires qu'on vient de me donner ici, je vais utiliser seulement pour le bien de ma famille et pas pour autre chose. Je vais utiliser seulement pour dormir avec mes enfants, pour nous épargner avec la malaria.
L'autorité provinciale met en garde tous les intervenants contre la fraude. Katisamba Makubuli Corneille précise que les contrevenants seront sanctionnés conformément à la loi.
Je vais exhorter aussi la population d'être vigilante du fait que cette moustiquaire, c'est pour le bien-être de la population. Nous allons veiller, gouvernement provincial. Nous serons derrière pour faire les suivis, afin d'endiguer des fraudes. Et ceux qui seront pris en flagrance seront sanctionnés.
Sachez que l'opération de distribution est couplée au dénombrement. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Noël, c'est dans une semaine exactement et à Beni, dans la province du Nord Kivu, les préparatifs de ces fêtes, notamment Noël, mais aussi la Saint-Sylvestre, vont bon train. Gros sapin de Noël installé au grand rond-point Nyamuisi, jouets et habillements pour enfants étalés à Matongé. Tout est frais, tout est prêt pour attirer les parents. Marc Marofimbo nous donne son reportage.
Ambiance inhabituelle la nuit dernière au quartier commercial de Matongé de la ville de Beni où certains magasins de commerce ont lancé les ventes de Noël. De nombreux parents y sont passés jusque tard dans la nuit pour acheter des habits et jouer des fêtes pour les enfants. Témoignage d'un parent retrouvé dans l'un des magasins. Nous sommes en fin d'année et comme parent d'enfants, je me retrouve ici devant les habits et les jouets des enfants. Tout ce que j'ai gagné aujourd'hui au travail, j'ai décidé de le dépenser pour une surprise aux enfants. Pour les parents, nous n'avons pas le choix, efforçons-nous toujours et ça va marcher. De leur côté, les commerçants disent plutôt rassurés.
Nous sommes en train de préparer la fête pour les enfants. Nous avons ramené beaucoup de jouets pour les enfants. Comparativement à l'année passée, ça se passe plutôt bien. On fait de notre mieux pour que l'on ait plus de clients possible. Disons que nous avons plus de clients qu'avant. Alors nous vous souhaitons joyeux Noël et surtout bonne année 2026.
Et comme l'année dernière, un gros sapin de Noël est déjà installé au rond-point Nyamuisi. Noël, c'est pour bientôt. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier un blocus total contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas en pleine crise entre les deux pays.
L'invité.
Nous vous l'avions indiqué en introduction de ce journal, des gens qui tuent leurs propres membres de famille, il y en a de plus en plus, notamment à Beni. Une dizaine de cas a été notifiée en 6 mois. L'insécurité persistante, les souffrances endurées ou encore les traumatismes subis sont parmi les principales raisons avancées par les psychologues. Comment prévenir ces comportements qui mettent en danger les familles et les communautés? Nous en parlons avec Patient Katuka, enseignant psychologue à l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC de Beni. Il s'entretient avec Marc Marofimbo. On les écoute.
Monsieur Patient Katouka, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes enseignant, psychologue et directeur du centre de counseling ici de l'ICBC, basé à Beni, Université chrétienne bilingue du Congo. Depuis quelques mois, on assiste au retour d'un phénomène qu'on croyait disparu dans la ville de Beni, des enfants et autres membres de famille qui commettent des parricides en tuant leur père, des matricides en assassinant leur mère ou encore des fratricides en ôtant la vie à leurs frères et sœurs. Comment expliquez-vous la résurgence de cette pratique?
D'abord, le mal est très profond. C'est le résultat de la souffrance que la population a endurée depuis des années. Ce qui a fait que la vie humaine est banalisée. Le fait qu'on voit des corps de gens tués, abandonnés, certains corps même transportés sur des motos, dans des véhicules, cela fait que petit à petit, on commence à trouver que la vie humaine n'est plus sacrée. On commence à trouver que la mort est normale. Les cadavres, c'est normal. On peut en trouver partout. C'est vraiment les résultats de plusieurs années des souffrances qui commencent à ôter l'humanisme en nous. L'essence-là d'humanisme commence à diminuer, à disparaître, et nous avons même peur que ces sens-là puissent totalement disparaître. Et ça fait que il n'y a plus respect d'abord de la dignité humaine, mais aussi ça renforce la méchanceté, mais aussi l'intolérance, les vandalismes, la rancune et même l'esprit de vengeance. Et la nature humaine chez nous commence à changer. On commence à prendre une nature de méchanceté parce que on a enduré beaucoup des souffrances.
On dénombre déjà 11 cas de cette pratique dans la ville de Beni, en territoire et même dans les territoires de Lubero, en espèce de 6 mois seulement. Ne craignez-vous pas qu'avec la persistance des violences et autres atrocités commises par les groupes armés, les phénomènes ne prennent de l'ampleur?
Exactement. Si rien n'est fait, en tout cas, le phénomène risque de prendre de l'ampleur parce que la souffrance est à la base des réactions et les réactions vont aussi contribuer à la pérennisation de la souffrance de la communauté. Donc, c'est comme un cycle. D'une part, il y a la population qui endure de la souffrance et de l'autre part, les comportements changent. On revêt un comportement de méchanceté pour accentuer la même souffrance. Et on est maintenant dans un cercle vicieux et exactement avec les cycles de violence, la situation risque de perdurer.
Alors, Patient Katouka, vous parlez d'un problème aussi peut-être de santé mentale, bien sûr, dans les cadres de ces jeunes qui tuent leurs parents ou frères en tant que maladie. Quels en sont les remèdes et pensez-vous que la région dispose de suffisamment de moyens pour faire face à ces problèmes?
Ah oui, d'abord, il faut un travail vraiment de longue haleine. Pour remédier à ça, c'est pas seulement une simple intervention, parce que le mal est déjà ancré dans la communauté, et ça demande le concours de tout le monde, à tous les niveaux. C'est pas seulement une question des psychologues, ça demande les leaders religieux, les éducateurs, tout le monde. Il faut d'abord qu'on s'implique dans la recherche de la solution afin que l'essence-là d'humanisme qui commence à se perdre, afin qu'on puisse les restaurer petit à petit. Et il faut vraiment, comme je disais, un travail de longue haleine, conscientiser tout le monde sur une bonne éducation, centrée sur l'amour du prochain, le respect de l'autre, la recherche des intérêts des autres, mais aussi l'Église doit jouer un rôle très important. Je vais maintenant revenir au niveau des familles, parce que l'éducation commence en famille. Dès le bas âge, nous devons apprendre aux enfants l'amour, la compassion, l'hospitalité, la générosité, l'humilité, l'obéissance, la recherche des intérêts des autres. Et une fois ces enfants seront grands, ils vont donner ce qu'ils ont réussi. Mais aussi les leaders à tous les niveaux, les pasteurs, les éducateurs, doivent servir d'exemple. Même les parents, tout le monde, doivent servir d'exemple à la jeunesse, parce que ça s'observe surtout au niveau de la jeunesse. Lorsque les leaders ne servent pas d'exemple, les jeunes observent ça et ils trouvent que ah, ça c'est normal, nous pouvons faire la même chose.
Monsieur Patient Katouka, je rappelle que vous êtes enseignant, psychologue et directeur des centres de counseling Bethesda de ICBC Beni. Nous vous disons merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.